Bien, mes chères consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, qui nous faites l'amitié d'être là cet après-midi, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire et de vous l'écrire, certains parmi vous m'ont dit l'an dernier que si j'étais conduit à présider cette académie et appelé à bâtir un programme sur la justice, il serait bon et peut-être même indispensable de parler du syndicalisme dans la magistrature. La séance de cet après-midi, venant après les deux séances consacrées à la justice sous Vichy et lors de l'épuration, et à la justice durant les opérations de maintien de l'ordre en Algérie, devenue tardivement la guerre d'Algérie, va tenter de répondre à cette demande. Et nous allons réexpérimenter une communication à deux voix, comme il s'en était déroulé une il y a quelques années, où, si ma mémoire est bonne, dans la salle d'à côté, François Dorcival et Alain Duhamel s'étaient exprimés côte à côte. Pourquoi deux voix ? Vous l'avez compris, bien sûr, pour avoir sans doute des avis différents et vous permettre d'avoir, à vos questions, des réponses peut-être nuancées, voire opposées. Bertrand Mathieu, qui est assis donc en tête, là, est professeur émérite de droit constitutionnel et il a enseigné à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a été conseiller d'État en service extraordinaire et de 2011 à 2015, membre du Conseil supérieur de la magistrature, dont le premier président Christophe Soulard vous a parlé au mois de janvier dernier. Il est membre de la commission de Venise du Conseil de l'Europe, qui est un organe consultatif de réflexion composé d'experts indépendants en droit constitutionnel. C'est bien cela. Parmi ses nombreuses autres activités, je ne peux pas tout citer, retenons qu'il fut président de l'Association française de droit constitutionnel, membre de la commission de réflexion sur le statut pénal du chef de l'État en 2002 et du comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions. Il a beaucoup publié, en particulier parmi d'autres ouvrages, en 2015, Justice et politique, la déchirure, point d'interrogation. En 2017, le droit contre la démocratie. En 2024, la justice en question. Valérie Turcet, qui est à sa droite, est conseiller à la Cour de cassation. Il a exercé à la Chambre criminelle, mais il est actuellement délégué dans les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Limoges. Il a été juge d'instruction à Soissons, à Bobigny, juge à Paris, vice-président au tribunal de Reims, conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies à Vienne, magistrat de liaison à Berlin, chef du service des affaires européennes et internationales au ministère de la Justice, président de chambre à la Cour d'appel de Paris et donc actuellement conseiller à la Cour de cassation, délégué dans les fonctions de premier président de la Cour d'appel de Limoges. Adhérent à l'Union syndicale des magistrats, appelée l'USM, il en a été le président de 1997 à 2002. Il a été membre, lui aussi, du Conseil supérieur de la magistrature de 2002 à 2006, antérieurement donc à M. Bertrand Mathieu. Ils n'ont pas siégé en même temps. Et de ses nombreuses autres activités, je retiens qu'il est membre du Conseil consultatif des juges européens au Conseil de l'Europe et qu'il a assuré de nombreux enseignements à l'ENM, mais aussi à Paris 5. Alors, venons-en à présent au syndicalisme judiciaire, aberration ou nécessité. Le titre a pu surprendre, notamment les intervenants. Si j'avais eu plus tôt, entre les mains, le beau livre « S'en aller » que vient de publier notre confrère de l'Académie française, François Sureau, qui est intervenu au seuil de cette année académique, peut-être au risque de choquer certains d'entre vous, me serais-je plutôt ou tout simplement référé à cette phrase qui figure en page 22 et que je vous livre. Je cite François Sureau et j'ouvre les guillemets et je mets trois points de suspension. Les professions qui touchent à l'essentiel, le droit et la médecine, sont exposés à la folie. De là, les fresques obscènes des salles de garde et le syndicalisme dans la magistrature. Trois points de suspension, fermez les guillemets. Alors, à nos deux invités de nous donner leur point de vue respectif et sur les mots aberration et nécessité, et non pas sur les scènes obscènes des salles de garde, mais sur le syndicalisme dans la magistrature qui est étonnamment accolé aux scènes obscènes dans les salles de garde. Vous nous direz ce que vous en pensez. Bertrand Mathieu parlera le premier. Je ne dirai pas que la défense appartiendra ensuite à Valérie Turcet, car ce ne sera pas sur ce ton qu'ils s'exprimeront. Mais il parlera donc en second. Et au moment des questions, vous les questionnerez tous les deux, ou vous préciserez, cette question s'adresse à Bertrand Mathieu ou à Valérie Turcet. Vous êtes assez grand et assez grande pour le décider vous-même. Donc, Bertrand Mathieu, si vous voulez prendre place derrière le pupitre, ou devant le pupitre, non, plutôt devant le pupitre, nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt et nous vous remercions.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Avant de tenter de répondre à la question qui nous a été posée, je voudrais tenter de justifier l'honneur qui m'est fait de m'exprimer devant vous en vous précisant en quelque sorte d'où je parle. Je vous prie de bien vouloir me pardonner ces quelques mots un peu personnels. Ils ne visent qu'à éclairer le substrat dans lequel s'enracine cette contribution. Quelle est donc la légitimité sur laquelle peut s'appuyer un constitutionnaliste pour répondre à la question que je vais traiter devant vous ? Les réponses, pour autant qu'elles soient positives, sont de nature différente. La toute première tient au fait que l'on ne peut vraiment comprendre une institution de l'intérieur, certes, mais que le regard extérieur est tout aussi indispensable. La seconde relève de ce que le constitutionnaliste ne peut qu'être frappé par la montée en puissance du pouvoir des juges, à tel point que la véritable séparation des pouvoirs aujourd'hui est celle qui distingue le pouvoir politique du pouvoir juridictionnel. Et c'est notamment à l'occasion de la rédaction de quelques essais que vous m'avez fait l'honneur de rappeler, Monsieur le Président, que j'ai essayé d'analyser plus en profondeur cette évolution qui a conduit à faire de la justice un véritable pouvoir susceptible d'entrer en conflit de puissance, de compétence et de légitimité avec le pouvoir politique. Ces analyses ont été nourries d'un certain nombre d'expériences. Il s'est agi de la participation à des comités qui ont préparé des réformes de la Constitution, dont certaines intéressaient la justice. La seconde expérience est celle d'une plongée durant 4 ans dans le monde de la magistrature judiciaire, comme membre laïque du Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, en quelque sorte, en contrepoint, l'expérience de juge comme conseiller d'État en service extraordinaire à la section du contentieux du Conseil d'État. La question du syndicalisme dans la magistrature peut se poser à plusieurs niveaux. L'un concerne le poids des syndicats dans la gestion de l'administrature, de la magistrature, pardon. Cette question a été notamment traitée devant vous par le président Jean-Marc Sauvé. L'autre concerne l'engagement et la prise de position publique des syndicats, et je n'aborderai le problème que sous cet angle. Le point de départ de l'analyse que je me permettrai de livrer devant vous tient à déterminer quelle est la légitimité du juge. Prendre parti sur la place du syndicaliste dans la magistrature nécessite, même si la question paraît s'éloigner du thème retenu, de s'interroger sur la place et la légitimité du juge dans un système démocratique. Le système politique qui est le nôtre est un système politique mixte, démocratique et libéral. Démocratique en ce que la légitimité du pouvoir politique repose sur l'élection ou le référendum. Il est libéral en ce que l'exercice du pouvoir est entouré de certaines garanties dont relève la séparation des pouvoirs et la garantie des droits. Il appartient au pouvoir politique de prendre des décisions visant à satisfaire ce qu'il estime être l'intérêt général. Le juge, il lui appartient de trancher des litiges dans le respect des décisions du pouvoir politique et de veiller, le cas échéant, au respect de la hiérarchie des normes. Il appartient également au juge judiciaire de protéger spécifiquement la liberté individuelle, c'est-à-dire de protéger le citoyen contre les mesures de police arbitraires, au sens large du terme, c'est-à-dire une sorte d'habeas corpus à la française. Comme l'a relevé François Sureau à l'occasion de la communication qu'il a présentée devant vous, nous sommes le pays de la lutte contre l'autorité judiciaire, entre l'autorité judiciaire et l'autorité politique pour la définition de l'intérêt général dans ce qu'elle a de plus essentiel. Il existe des liens, bien sûr, entre la démocratie et le pouvoir des juges. Ainsi, garant de la régularité des élections, les juges sont garants du bon fonctionnement de la démocratie. En France, la justice est rendue au nom du peuple français, sauf pour ce qu'il s'agit du Conseil constitutionnel. Mais la justice, et j'emploie ces termes au risque de choquer, mais je m'en expliquerai, la justice n'est pas un pouvoir démocratique au sens premier du terme. Elle est un pouvoir nécessaire à la démocratie, ce qui est un peu différent. Selon un principe rustique qui mériterait bien des aménagements, mais peut servir de référence, dans l'application des normes à un cas concret, le dernier mot doit revenir au juge. Dans la détermination des normes, le dernier mot doit revenir au pouvoir politique. En réalité, le juge ne peut pas vouloir à la place du politique. Et c'est probablement, mais je n'ai pas creusé la question, en ce sens que Montesquieu parle de la justice comme d'un pouvoir nul. Au contraire, si l'on considérait qu'il appartient au juge d'adapter le droit aux évolutions de la société, chaque juge va pouvoir, à partir de sa propre conception de ce que doit être la société, fixer son propre droit et empiéter ainsi sur ce qui est le cœur de la fonction politique. La véritable question qui se pose alors est de savoir, dans cette répartition des fonctions entre le politique et le juge, ce sur quoi repose la légitimité du juge. C'est, de mon point de vue, celle d'être un tiers impartial. En effet, et je ne développerai pas cette question, faute de temps, si l'on fonde l'existence d'un pouvoir ou d'une autorité sur le droit du justiciable, l'autorité judiciaire, sur le droit du justiciable, de bénéficier d'un procès équitable et de pouvoir faire valoir les droits qui lui sont reconnus, c'est l'impartialité qui constitue l'élément légitimant de la fonction du juge. L'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle développe l'exigence de l'impartialité objective, s'inscrit parfaitement dans cette logique. Ce n'est pas seulement l'impartialité réelle du juge qui est exigée, mais une situation dans laquelle le justiciable n'a pas de raison d'émettre un doute raisonnable sur l'impartialité de son juge. L'indépendance des juges et des tribunaux n'est pas un privilège octroyé dans leur intérêt propre, mais elle leur est garantie dans l'intérêt des justiciables. Elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l'impartialité de la justice. Et le Conseil constitutionnel, en 2014, rappelle que l'impartialité est liée à l'activité juridictionnelle. Il en résulte que tiers impartial, le juge ne devrait pas pouvoir faire état publiquement d'engagement politique ou philosophique ou d'occuper des fonctions publiques. C'est sur ce postulat que j'ancrerai la suite de mon intervention. Il s'agit donc de déterminer si le syndicalisme judiciaire est compatible avec l'exigence d'impartialité ou, tout du moins, à quelles conditions il peut l'être. La question de l'engagement politique des syndicats de magistrats. En 1953, l'Union syndicale des magistrats enjoignait aux juges de se transcender dans l'exercice de leurs fonctions de ne jamais faire apparaître leur conception de la vie sociale et politique, car ils n'ont pas le droit d'ajouter au justiciable une inquiétude supplémentaire qui le conduira et le conduit déjà à s'interroger sur la couleur politique et l'impartialité de son juge. Pourtant, l'actualité récente témoigne de nombreuses manifestations de nature politique de la part des syndicats. Plutôt que de s'y attarder, tant elles sont dans les mémoires, revenons quelques instants sur l'histoire du mouvement syndical en France. Il a été initié en 1968 par le syndicat de la magistrature. Existait auparavant une association de magistrats qui s'est transformée en 1974 en syndicat, l'Union syndicale des magistrats. Aujourd'hui, le paysage syndical est pour l'essentiel le suivant. Un syndicat majoritaire dont l'orientation corporatiste est clairement assumée, mais qui n'hésite pas à prendre parti dans le débat public, et c'est l'Union syndicale des magistrats, et un syndicat clairement engagé en gauche et qui revendique cet engagement dans le débat politique, le syndicat de la magistrature. Ces deux syndicats sont les seuls représentés au Conseil supérieur de la magistrature. Il existe aussi un syndicat Unité Magistrat, affilié à Force ouvrière, et un syndicat classé à droite qui s'est créé en réaction contre l'engagement politique du syndicat de la magistrature, l'Association professionnelle des magistrats, qui symboliquement d'ailleurs n'utilise pas le terme syndicat dans sa raison sociale. Ce n'est pas faire procès au syndicat de la magistrature de dire qu'il se réclame d'une justice politisée. Dans sa fondation, ses représentants ont assumé un engagement social et politique en faveur de ceux qu'ils considèrent comme les plus défavorisés, donc une forme de partialité. Les représentants de ce syndicat assument avec constance ce positionnement. Comme le déclare en 2014 la présidente du syndicat de la magistrature, le juge neutre n'existe pas et c'est tant mieux. Il n'est pas un être désincarné, il pense et il a des opinions personnelles. Entre la loi et le cas particulier, il y a un espace rempli par le juge avec ses valeurs, ses convictions, sa personne. En ce sens, les prises de position syndicales contre des gouvernements démocratiquement élus ou contre des lois que pour les juges ont mission d'appliquer, traduisent l'idée, et j'y reviens, selon laquelle les juges ont pour mission d'adapter le droit aux évolutions de la société. Mais d'une certaine manière, pour emblématique qu'elle soit, la position du syndicat de la magistrature n'est que le poste avancé d'une position plus générale des organisations représentatives de magistrats. Ainsi, l'USM, qui revendique son apolitisme, a notamment pris parti contre l'un des candidats à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012. Quelle sent l'activité syndicale? C'est à partir du postulat relatif à l'impartialité des juges et du constat d'une politisation assumée par certains syndicats, ou plus exactement par un certain syndicat, que je voudrais tenter d'en venir enfin à la question posée. J'écarterai d'abord la première alternative, qui conduirait à interdire les syndicats de magistrats. En Europe, la quasi-totalité des pays autorise les magistrats à syndiquer, seule l'Espagne fait figure d'exception. Et en fait, elle a une association de magistrats qui remplit à peu près le rôle d'un syndicat de magistrats en France. Ainsi, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons juridiques, il semble impossible de revenir sur la liberté accordée aux magistrats de se syndiquer, ce qui, de mon point de vue et au surplus, ne serait pas souhaitable. S'agissant de la légalité et des limites de l'action syndicale, le droit, en son état, n'est pas dépourvu d'ambiguïté. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 1er décembre 1972, a validé l'existence de syndicats dans la magistrature en jugeant que le syndicat de la magistrature était recevable à intervenir dans une instance engagée par un magistrat déclarant avoir agi en tant que membre de ce syndicat. Cependant, il convient de relever que dans cette même décision, le Conseil d'État juge que participer à la diffusion d'une protestation rédigée en termes désobligeants contre une décision prise par le président de la juridiction constitue un manquement au devoir de réserve. De manière assez pertinente, la même haute juridiction, dans deux décisions rendues en octobre 2023, le même jour, dessine ce qui relève de la compétence syndicale et ce qui n'en relève pas. Dans une affaire relative au contrôle d'identité, le Conseil d'État admet une intervention du syndicat de la magistrature qui faisait valoir que les magistrats judiciaires n'avaient pas les moyens matériels et juridiques, en l'état du droit, de contrôler le caractère non discriminatoire des contrôles d'identité. En revanche, il n'a pas admis une telle intervention à l'appui d'un recours concernant le respect par les forces de l'ordre de l'obligation de port visible de identifiants individuels, en jugeant que ces modalités d'identification ne sont pas par elles-mêmes de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats et ne portent aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. On lit probablement en négatif ce que peuvent être les compétences d'un syndicat de magistrats. La Cour européenne des droits de l'homme se montre favorable à la liberté d'expression des magistrats et cette liberté d'expression peut s'exercer dans le cadre syndical. Mais bien que la rédaction de ces décisions ne soit pas sur ce point toujours d'une grande clarté, son raisonnement semble justifier cette liberté par le fait que les questions concernant le fonctionnement de la justice sont d'intérêt public. C'est ainsi dans le champ de l'organisation judiciaire et de son fonctionnement, voire de son indépendance, et dans celui relatif au statut des magistrats, que cette liberté a son assise la plus solide. La Cour européenne insiste également sur le fait que la justice doit jouir de la confiance du public, confiance qui peut être atteinte par un engagement politique public au-delà du champ judiciaire. Dans une décision de 2016, la Cour a reconnu que l'on est en droit d'attendre des fonctionnaires de l'ordre judiciaire qu'ils jugent, de leur liberté d'expression avec retenue chaque fois que l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire est susceptible d'être mise en cause, tout en leur permettant de s'exprimer sur des questions concernant le fonctionnement de la justice qui relèvent de l'intérêt public. Dans une décision plus récente de 2023, la Cour estime que la secrétaire générale d'un syndicat de magistrats avait le droit et même le devoir de donner son avis sur des réformes constitutionnelles susceptibles d'avoir une incidence sur la magistrature et sur l'indépendance de la justice. Toujours dans le même sens, le Conseil de l'Europe, dans une recommandation, a déclaré que les juges devaient être libres de créer ou d'adhérer aux organes professionnels ayant pour objectif de garantir leur indépendance, de protéger leurs intérêts et de promouvoir l'état de droit. Ce dernier objectif ouvre cependant la voie à des engagements de nature politique au regard de la portée particulièrement large et imprécise du concept d'état de droit. La commission de Venise du Conseil de l'Europe a synthétisé dans le même sens sa position dans une compilation qui est d'ailleurs en voie de révision. La position du Conseil consultatif des juges européens sur la liberté d'expression des juges va plus loin, en considérant que les juges ont le droit de faire des commentaires sur des questions qui concernent les droits fondamentaux de l'homme, l'état de droit et également les questions qui concernent le statut des magistrats, mais ça, c'est admis. Cette position, qui, rappelons-le, est celle d'une organisation composée de juges, ouvre un champ d'intervention beaucoup plus large, en affaiblissant le lien rattachant la prise de position à l'activité juridictionnelle et en se référant à des domaines particulièrement vastes et indéfinis, tels que les droits fondamentaux et l'état de droit, en permettant donc des incursions sur le terrain politique. Le 2 mai 2023, le garde des Sceaux a saisi pour avis le Conseil supérieur de la magistrature sur la question de la liberté d'expression des magistrats, en relevant que certaines formes d'expression peuvent parfois, pour l'opinion publique, interroger le respect de l'obligation de réserve et de neutralité. Dans un avis que je qualifierais en usant de ma liberté d'expression de tardif et convenu, le Conseil supérieur de la magistrature met en exergue la liberté d'expression renforcée des syndicats, ce qui nous intéresse directement, sans véritablement répondre au fond à la question qui lui a été posée. En toute hypothèse, en droit français, si la liberté syndicale des magistrats est reconnue, ses conditions d'exercice peuvent être encadrées. Ainsi, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à certains aménagements de la liberté syndicale qui trouveraient parfaitement, me semble-t-il, à s'appliquer en matière judiciaire. Pourtant, au Sénat, un amendement déposé par le groupe Union Centriste et adopté à l'occasion du débat sur le projet de loi organique relatif à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire en 2023 disposer que la liberté syndicale des magistrats s'exerce dans le respect du principe d'impartialité qui s'impose aux membres du corps judiciaire. Cet amendement a subi les foudres des syndicats de magistrats et, invoquant sa possible inconstitutionnalité, le garde des Sceaux s'y est opposé. En définitive, a été adopté un texte ajoutant à l'article 10 de la loi organique précitée une formule selon laquelle l'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions. Cette version, à minima, de l'amendement sénatorial n'est pas dénuée de toute portée. Elle a en effet un champ un peu plus large que la seule interdiction de délibération politique et des manifestations d'hostilité au gouvernement de la République, figurant déjà à l'article 10. Cependant, l'inconstitutionnalité invoquée s'agissant du texte voté en première lecture par le Sénat est cependant discutable. Il convient en effet de considérer si l'on admet, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel, que l'impartialité constitue le devoir essentiel du magistrat, le fondement de son pouvoir, j'ajouterai, le principe de liberté syndicale doit nécessairement être concilié avec cette exigence constitutionnelle d'impartialité. L'un des arguments opposés à de telles conclusions tient au fait que si la liberté d'expression du magistrat en tant que telle peut être encadrée, tel ne serait pas le cas de la liberté d'expression syndicale. Ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature a publié en mai 2023 un communiqué faisant valoir que l'impartialité d'un magistrat ne peut être mise en cause au seul motif de son appartenance à un syndicat. Certes, un magistrat appartenant à un syndicat politiquement engagé n'est pas nécessairement partiel, mais il peut donner le sentiment de l'être, et on retombe donc sur la théorie de l'apparence ou de l'impartialité objective. La question de savoir si l'obligation d'impartialité qui s'impose aux magistrats s'impose également aux syndicats de magistrats est en réalité biaisée. Si un magistrat s'exprime sous couvert de ses responsabilités syndicales, il ne serait pas soumis à l'obligation de réserve et d'impartialité. S'il s'exprime sans cette couverture, il y serait soumis. Vous me pardonnerez cette référence, « Je suis oiseau, oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats ». Je ne suis pas sûr, vous me pardonnerez là aussi d'user d'une liberté de ton, que le justiciable ne se satisfera de cette fable. En réalité, la question est très difficile à trancher. Deux positions extrêmes peuvent être tenues. L'une tendrait à considérer qu'un syndicat ne peut s'exprimer que sur ce qui relève des intérêts matériels de la profession. L'autre à soutenir qu'en tant que garant de l'état de droit, le syndicat peut déterminer et défendre ce qu'il considère comme relevant de cette exigence, ce qui peut, à l'extrême, concerner toute l'organisation politique et sociale. En réalité, la ligne de crête est étroite. Il conviendrait de considérer qu'un syndicat est légitime à prendre position tant sur le statut des magistrats que sur l'organisation de l'institution judiciaire, mais qu'il ne lui appartient pas de prendre position ni en faveur ni en défaveur de tel ou tel responsable politique, ni de critiquer les textes qu'il a pour mission d'appliquer. À défaut, en s'érigeant en défenseur d'une conception large de l'état de droit, susceptible de concerner tant la portée des droits et libertés que le fonctionnement de la démocratie, les syndicats interviennent dans le champ politique, c'est-à-dire dans la détermination de ce qui constitue l'intérêt général que seul le politique exprimant la volonté générale est légitime à déterminer. Le mélange des genres et des compétences entre le politique et la justice ne peut affaiblir, osons le mot, que ces deux pouvoirs dont le concours est nécessaire au fonctionnement d'une démocratie libérale. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le professeur Bertrand Mathieu, pour ce premier point de vue. Donc, nous allons entendre à présent un second point de vue que va exprimer monsieur Valéry Turcet, qui se lève donc, qui va parler lui aussi avec le pupitre et que nous écoutons avec intérêt.
Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Je suis très honoré que vous m'ayez invité avec le professeur Mathieu pour cette intervention à deux voix, stéréophonique, sur le thème du syndicalisme judiciaire. J'avoue avoir été un peu surpris par le titre de cette conférence, « Aberration ou nécessité ». Je me suis donc reporté au dictionnaire de l'Académie française, 9e édition, et j'y ai trouvé la définition suivante du mot « aberration », le fait de s'écarter de ce qui est considéré comme « normal ». Il y a place dans l'appréciation de la normalité pour le droit, pour les usages et la subjectivité du commentateur. Le syndicalisme judiciaire ne m'apparaît comme anormal sous aucun de ces trois angles. Il est désormais reconnu par l'article 10.1 de la loi organique statutaire, largement répandu en France et dans le monde, et j'y ai consacré une large part de mon temps entre 1993 et 2001. Permettez-moi quelques observations préliminaires. Le syndicalisme existe aussi au sein des juridictions administratives et financières, qui n'appartiennent pas à l'ordre judiciaire. Sa puissance dans la police est de notoriété publique et suscite apparemment peu de questionnements. Dans la plupart des États du monde, il existe des associations ou des syndicats de magistrats. Il y a même des associations internationales de magistrats. Les deux principales sont l'UIM, fondé en 1953, et le MEDEL, fondé en 1985 à l'initiative du syndicat de la magistrature. Le professeur Mathieu vous l'a rappelé, aux dernières élections professionnelles, en 2022, l'USM a recueilli 62,8% des voix, suivi du syndicat de la magistrature, 29%, du syndicat Unité Magistrat, FO, 7,5%, et de la CFDT, 0,6%. Je parlerai essentiellement de l'USM et du SM, car j'ai autrefois représenté la première organisation et connu d'assez près la seconde. J'évoquerai plus brièvement les autres syndicats, simplement parce que je les connais moins. Dans une première partie, j'aborderai la naissance et le contenu du syndicalisme judiciaire, avant de m'interroger dans un second temps, comme vient de le faire le professeur Mathieu, sur les rapports qu'entretiennent les libertés syndicales et l'obligation d'impartialité. L'histoire de la magistrature jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale est celle d'épurations successives, à chaque changement de régime politique, sans que ces nominations, qui avaient pour objet d'assurer la fidélité absolue des juges et des procureurs au pouvoir en place, soient considérées comme illégitimes. Bien au contraire, il était alors normal que le magistrat représentant de l'ordre établi y adhère en son for intérieur et le fasse savoir s'il voulait conserver sa place. Sous la Troisième République, la discipline des magistrats est confiée à la Cour de cassation, mais leur carrière demeure dans les mains du pouvoir exécutif. On peut ainsi lire dans les mémoires de Pierre Bouchardon, qui magistrat, avocat et magistrat creusois, qui fut le juge d'instruction de l'affaire Matahari. « Je n'étais pas sans peine entré à la Cour de cassation, le cartel des gauches m'en ayant interdit la porte aussi longtemps qu'il avait détenu le pouvoir. » Mais les élections de 1928 ayant donné à la Chambre des députés une autre orientation politique, l'exclusive fut levée et j'appris, un beau jour du mois de mai 1929, que le garde des Sceaux avait fait agréer ma nomination par le Conseil des ministres. La IVe République crée pour la première fois dans notre histoire un Conseil supérieur de la magistrature chargé de proposer au président de la République qui le préside la nomination des magistrats du siège. Son bilan est incertain. On sait que la Ve République a conservé et modifié cette institution, qui jusqu'en 1993 était exclusivement composée de magistrats nommés par le président de la République et n'avait pas compétence pour les magistrats du parquet. Et même au siège, il valait mieux ne pas déplaire, comme l'illustre une anecdote célèbre. Voici un extrait de la rubrique nécrologique du premier président Marcel Rousselet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, paru dans la Revue internationale de droit comparé, en 1984. En 1962, tandis que se déroulait à Paris le procès du général Salan, d'importantes forces de police investirent les abords du palais de justice et le palais lui-même. Le premier président Rousselet, qui présidait une audience solennelle en robe rouge, protesta publiquement contre les excès de ce service d'ordre à l'égard de certains magistrats. Quelques semaines plus tard, un décret abaissa à 67 ans l'âge de la retraite de sa catégorie. Monsieur Rousselet, qui avait 68 ans, fut aussitôt admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il accueillit avec dignité cette mesure qui causa beaucoup d'émoi dans le monde du palais et lui valut d'innombrables témoignages de respect, de filet d'attachement et d'amitié. L'abaissement de l'âge de la retraite est un procédé efficace, mais qui ne peut concerner que les magistrats les plus anciens. Il est toujours d'actualité dans d'autres pays, comme en témoigne par exemple l'arrêt Pajac contre Pologne, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 24 octobre 2023. Dans ce domaine, je veux dire la fidélité au pouvoir politique, comme dans d'autres, c'est 1968 qui constitue le point de rupture. Avec la création du syndicat de la magistrature apparaît le mythe des juges rouges, qui a perduré jusqu'à nos jours, attestant la spectaculaire réussite de l'opération de communication initiée alors et régulièrement entretenue depuis par ce syndicat. Que des magistrats puissent tenir un discours différent de celui du pouvoir en place est apparu comme une révolution qui a durablement traumatisé certains observateurs et responsables politiques et économiques. On se souvient de quelques figures emblématiques de cette période. Ainsi, Patrice de Charette, juge d'instruction à Béthune, qui a ordonné en 1975 la mise en détention provisoire d'un chef d'entreprise après un accident mortel du travail. Sa décision a provoqué une intense polémique, le garde des Sceaux Jean-Luc Hannuet ayant critiqué la décision du magistrat au journal de 20 heures. Le chef d'entreprise a été libéré au bout de 5 jours par la cour d'appel. Moins connu, Oswald Baudot, alors substitut à Marseille, avait adressé en son nom personnel en 1974 aux auditeurs de justice, c'est-à-dire aux élèves magistrats, un texte généralement désigné comme la harangue d'Oswald Baudot, dont le contenu est encore rappelé par certains journaux pour fustiger le syndicat de la magistrature. En voici quelques extraits. « En entrant dans la magistrature, vous êtes devenus des fonctionnaires d'un rang modeste. Gardez-vous de vous griser de l'honneur fin ou réel qu'on vous témoigne. Ne vous haussez pas du col, ne vous gargarisez pas des mots de troisième pouvoir, de peuple français, de gardien des libertés publiques. On vous a doté d'un pouvoir médiocre, celui de mettre en prison. On ne vous le donne que parce qu'il est généralement inoffensif. Quand vous infligerez 50 prisons aux voleurs de bicyclettes, vous ne dérangerez personne. Évitez d'abuser de ce pouvoir. Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas la même poids, il faut que vous la fassiez un peu pencher d'un côté. » Oswald Baudot a comparu devant la commission de discipline du parquet, qui a conclu une réprimande que le ministre de la Justice, Jean-Luc Hannuet, a renoncé à prononcer. Ce texte est pour le moins daté. Il appartient à l'histoire des années 1970. Qu'il soit encore rappelé aujourd'hui relève du mystère ou de la communication politique. On pourrait citer également Georges Appape, procureur de la République à Valence, qui avait en 1987, dans un discours d'audience solennelle, souligné l'inefficacité de la lutte contre l'usage de stupéfiants et envisagé, sur le mode ironique, l'hypothèse de la légalisation. L'intéressé a été poursuivi devant la commission de discipline du parquet, qui a refusé de le sanctionner, au motif notamment que l'obligation de réserve ne saurait servir à réduire le magistrat au silence ou au conformisme, mais doit se concilier avec le droit particulier à l'indépendance qui distingue fondamentalement le magistrat du fonctionnaire, et que prétendre à l'entière soumission des magistrats du parquet à une hiérarchie dont le garde des Sceaux serait le chef n'aboutirait, ainsi qu'il a été souvent observé, qu'à discréditer la justice en ne faisant du parquet que l'auxiliaire du pouvoir exécutif. C'est une décision de la commission de discipline du parquet du 9 octobre 1987. Je n'ai pas connu les magistrats que j'ai cités. J'en ai rencontré d'autres qui avaient participé à la fondation du syndicat de la magistrature et dont la stature intellectuelle m'a impressionné. Louis Joinet, devenu plus tard conseiller justice du président Mitterrand, ou François Colcombet, qui sera élu député à 2 reprises sous les couleurs du Parti socialiste avant de terminer sa carrière à la Cour de cassation. Voilà pour les juges rouges, peut-être en réalité plus roses que rouges. Ils ont inventé le syndicalisme judiciaire, mais leur organisation ne représente à ce jour qu'un petit tiers des suffrages. Le professeur Mathieu l'a rappelé, il existait déjà depuis la Libération une Union fédérale des magistrats, sous la forme d'une association, qui revendiquait l'amélioration de la condition matérielle des magistrats, absolument catastrophique. À la fin de l'année 1945, alors que les rémunérations étaient fixées par arrêté préfectoral dans le département de la Somme, un vacher ayant moins de 10 vaches et effectuant des travaux de valet de cour percevait 5000 francs par mois, et un juge de paix, dans le même département, 4 693 francs par mois. Les traitements, le déroulement de la carrière et la défense de principes qui avaient été malmenés durant la guerre d'Algérie ont constitué les principaux thèmes de l'UFM. C'est à la suite de la création de son jeune et turbulent concurrent que l'UFM a décidé en 1974 d'adopter elle aussi la forme syndicale sous le nom d'USM. Le premier de ses présidents, André Braunschweig, a entretenu des rapports, disons, tendus avec le garde des Sceaux, Alain Perfit. Il fut le directeur de cabinet du premier garde des Sceaux nommé par François Mitterrand, Maurice Faure, puis celui de Robert Badinter. L'arrivée au pouvoir de la gauche a conduit un certain nombre de magistrats à constituer, sous la forme syndicale masquée par le nom d'association, une association professionnelle de magistrats, APM, très influente sous les gouvernements de droite. Son dernier secrétaire général s'est lancé en politique et a été élu député à plusieurs reprises. L'APM a cessé ses activités en 1998 à la suite d'un jeu de mots antisémite contenu dans un article de son président. Elle aurait été recréée depuis, mais ni son activité ni sa représentativité ne sont connues. Il existe également un syndicat affilié à la Confédération Force Ouvrière, représentatif des magistrats, et un syndicat CFDT Magistrats. Voici pour la naissance du syndicalisme judiciaire. S'agissant de son contenu, la lecture des statuts des différentes organisations ne renseigne qu'imparfaitement sur leurs positionnements respectifs. Je ne vous infligerai pas l'analyse détaillée de ces statuts, on peut néanmoins y relever des nuances significatives. En voici quelques extraits. S'agissant de ceux du SM, ce syndicat est autonome et inscrit son action dans le mouvement social. Le syndicat a pour objet de veiller à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer en toute indépendance sa mission de garant des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'égalité de tous et de toutes devant la loi. À cette fin, il peut engager toutes actions, y compris contentieuses, tendant à assurer le respect des droits et libertés à valeur constitutionnelle ou garanties par les conventions internationales ou s'y associer. Rien de révolutionnaire. Tout au plus peut-on relever la référence aux droits de l'homme et la formule « inscrit son action dans le mouvement social ». Les statuts de l'USM énoncent que ce syndicat est autonome, indépendant et s'interdit tout engagement politique. Il a pour objet d'assurer l'indépendance de la fonction judiciaire, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats et de promouvoir une justice accessible, efficace, respectée et humaine. Il est souligné que l'USM s'interdit tout engagement politique. S'agissant des statuts du syndicat Unité Magistrats Force Ouvrière, on peut en retenir que ce syndicat peut comprendre des magistrats des juridictions judiciaires, administrative ou financière, qu'il adhère à Force Ouvrière et qu'il s'interdit toute discussion politique, philosophique ou religieuse. À la lecture de ces textes, rien d'aberrant. La référence au mouvement social pour l'USM, l'apolitisme pour l'USM et FO, et en facteur commun, moins clairement exprimé dans les statuts de FO, la défense de l'indépendance. Rien dans les statuts des trois organisations représentatives ne se réfère à la manière dont les magistrats doivent chacun exercer leur métier. Je me permets d'insister sur ce point. Les syndicats de magistrats ne sont pas des organisations qui dictent aux juges et aux procureurs la manière dont ils seraient tenus de requérir ou de juger. Ce sont des lieux de discussion, de réflexion et d'expression. Ils rassemblent généralement des personnes ayant la même sensibilité sur divers sujets, de gauche pour l'USM, apolitique pour l'USM et FO. Ce ne sont pas les syndicats qui imposent à leurs adhérents une manière de penser, mais bien les magistrats partageant telle ou telle préoccupation qui choisissent d'adhérer à un syndicat plutôt qu'à un autre. Certains magistrats changent d'ailleurs d'organisation pour diverses raisons. Puisque c'est en qualité d'ancien président de l'USM que vous m'avez invité, permettez-moi un témoignage personnel. Étudiant en droit et en sciences politiques, nourri de Montesquieu, de Tocqueville, de Bertrand de Jouvenel et de Raymond Aron, j'ai passé le concours d'entrée à l'UNM sans vocation particulière, autre que celle de servir l'État. Un État libéral, respectueux des droits des citoyens évitant la confusion des pouvoirs qui conduit à l'abus de pouvoir et à la restriction des libertés publiques. J'ai adhéré à l'USM en réaction à ce qui m'est apparu comme une forme de pensée unique très présente à l'ENM, où le syndicat de la magistrature avait pris une position dominante à la suite de la victoire de la gauche en 1981. Car le poste du directeur de l'ENM est un emploi à la discrétion du gouvernement, et tous les gouvernements s'imaginent assez naïvement qu'en nommant à la tête de cette école une personnalité qui leur est proche, ils pourront influencer la réflexion des futurs magistrats. Cette adhésion m'a permis de briser l'isolement des premières années de fonction, de découvrir en échangeant avec des collègues de tout niveau hiérarchique un autre visage de la magistrature et de m'enrichir de leur expérience professionnelle. J'imagine qu'il en aurait été de même au sein d'une autre organisation, mais il m'apparaît nécessaire de souligner ici une dimension méconnue de l'activité syndicale, la convivialité. Il y a d'autres dimensions mieux documentées. Au ministère de la Justice, comme ailleurs, les syndicats de magistrats et de fonctionnaires sont les interlocuteurs permanents des directions de la chancellerie, ainsi que du cabinet du garde des Sceaux. Ils participent aux élections à la commission d'avancement, dont les résultats permettent de déterminer leur représentativité, sur la base desquelles leur sont attribuées une dotation de fonctionnement et un quota de décharge d'activité. Rien d'original, il s'agit simplement de la transposition des règles de la fonction publique. Ils sont auditionnés de manière habituelle par les rapporteurs des différents projets de loi et les commissions parlementaires. Mais l'aspect le plus nouveau de l'activité syndicale, et le plus périlleux aussi, est probablement celui des relations avec la presse. C'est un levier puissant. On dit parfois que 30 secondes à la télévision sont plus efficaces que 3 heures place Vendôme, mais très difficile à manier. C'est par les médias que les différents syndicats se sont construits chacun une image de marque particulière. Le syndicat de la magistrature est le premier à avoir compris et exploité le pouvoir des médias. Ancré à gauche, plusieurs de ses responsables historiques ayant eu un engagement politique qui leur a permis d'être élus au Parlement, minoritaire, il s'est inscrit dans une stratégie de communication visant à attirer l'attention sur lui en effrayant la partie la plus conservatrice de l'opinion. Pour le dire de manière un peu caricaturale, né en 1968, il semble avoir endossé volontairement le rôle d'épouvantail à bourgeois. Que cette stratégie se soit avérée efficace en termes de publicité est une évidence. On peut penser qu'elle a eu des répercussions négatives sur la perception de la magistrature par les responsables politiques et le grand public. On sait que l'ESM a déclenché, sans l'avoir recherché, une intense polémique il y a plus de 10 ans. Il s'agit de l'affaire dite du mur des cons, sur laquelle je ne reviendrai pas en détail. Que des magistrats aient pu, même dans un lieu privé, afficher les portraits de personnes dont ils ne partageaient pas les opinions, dans un esprit de dénigrement, a causé un scandale retentissant. La présidente du syndicat de la magistrature a été déclarée coupable d'injure publique et condamnée à une amende avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts. Pour sa part, l'USM a longtemps hésité à se lancer dans la communication. Elle a franchi le pas à la fin des années 90, alors que débutait la litanie des affaires politico-financières qui permirent aux uns de dénoncer les juges de droite, aux autres de dénoncer les juges de gauche, et à tous de se dire victimes d'un complot orchestré par des ennemis politiques. Il se passait d'ailleurs la même chose au même moment en Italie et en Espagne. Il fallait répondre, et j'y ai pris part. Permettez-moi juste de citer les affaires Urba, Tapie, Elf, Carignon, Noir-Botton, les HLM de Paris, et quelques noms de juges et de procureurs, Thierry Jean-Pierre, Renaud Van Ruymbeck, Eva Joly, Isabelle Prévost-Després, Éric Alphen, Éric de Montgolfier. Il faudrait plusieurs volumes pour décrire le détail de ces affaires, les tentatives de déstabilisation à l'égard des juges et, pour tout dire, la rudesse avec laquelle les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, ont tenté de garder le contrôle sur les dossiers sensibles. J'ai quitté la direction de l'USM en 2002. Je n'aborderai donc pas les autres affaires qui ont continué depuis à tendre les relations entre la justice et les autres pouvoirs de l'État. La deuxième partie de mon intervention sera consacrée aux liens qu'entretiennent la liberté d'expression des magistrats, cette vieille peur française, et l'exigence d'impartialité dans le cadre d'une procédure. La question de la liberté d'expression des magistrats a connu des développements récents, mais elle n'est pas nouvelle. En toile de fond dans l'imaginaire institutionnel de notre pays figure la résistance des parlements de l'Ancien Régime à l'autorité royale. Le 3 mars 1766, Louis XV, dans la célèbre séance dite de la flagellation au Parlement de Paris, s'est exprimé en ces termes. « Je ne souffrirai pas qu'il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu'il s'introduise dans la monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu'en troubler l'harmonie. La magistrature ne forme point un corps ni un ordre séparé des trois ordres du royaume. Les magistrats sont mes officiers, chargés de s'acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne. » On le voit, le principe de la séparation des pouvoirs, qui sera proclamé plus tard par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'était pas encore à l'ordre du jour. Enjambons les siècles. Comme l'a indiqué le professeur Mathieu, le CSM a été saisi à plusieurs reprises par les gardes des Sceaux successifs de la question de la liberté d'expression des magistrats. Dans un avis du 27 mai 1998, saisi par Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, il estimait en particulier que les magistrats disposent, comme tout citoyen, de la liberté d'expression reconnue par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Un magistrat peut donc, par voie de presse et par tout autre moyen, à titre individuel ou syndical, exprimer son opinion sur tous les sujets. Cette liberté comporte cependant des limites. Elle doit s'exercer sans que soit atteinte la dignité et l'autorité de la fonction, ni l'impartialité que tout justiciable est en droit d'exiger plus particulièrement. 25 ans plus tard, la question était toujours d'actualité, puisqu'un autre garde des Sceaux a demandé l'avis du CSM sur le même sujet, et qu'à la suite de diverses péripéties parlementaires, la loi organique du 20 novembre 2023 a complété l'article 10 de l'ordonnance statutaire pour préciser que l'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions, ni porter atteinte à l'indépendance de la justice. Peu de temps après cette modification du statut, le CSM, dans son avis du 13 décembre 2023, a répondu au garde des Sceaux, notamment que la reconnaissance du droit syndical a inéluctablement pour conséquence de conférer aux organisations syndicales et à leurs représentants un droit de s'exprimer qui est encore plus large que celui qui résulte du droit commun. En particulier, la possibilité d'opter un ton polémique pouvant comporter une certaine vigueur constitue un corollaire indispensable à un plein exercice de la liberté syndicale. Le journal Le Monde, dans son édition du 13 décembre 2023, a présenté cet avis comme un cours de droit du CSM à l'attention du garde des Sceaux. La formule était probablement excessive. Mais force est de constater que l'état du droit national et européen ne faisait guère de doute. En décembre 2022, le Conseil consultatif des juges européens, placé auprès du Conseil de l'Europe et dont les travaux sont régulièrement cités dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, avait déjà émis un avis dont je retiendrai quelques formules. Outre le droit individuel d'un juge, les principes de démocratie, de séparation des pouvoirs et de pluralisme exigent la liberté des juges de participer aux débats d'intérêt public, spécialement concernant les questions relatives au pouvoir judiciaire. Les juges qui s'expriment au nom d'un conseil de la justice, d'une association de juges ou d'un autre organe représentatif du pouvoir judiciaire jouissent d'une plus grande discrétion à cet égard. Et la Cour européenne des droits de l'homme, à plusieurs reprises, avait été amenée à statuer sur l'étendue de la liberté d'expression des magistrats, particulièrement dans les jeunes démocraties d'Europe de l'Est, travaillées par des tentations autoritaires, et dans lesquelles les juges qui ne partagent pas les orientations du gouvernement et qui le disent risquent tout simplement de perdre leur emploi. Je terminerai sur l'obligation d'impartialité, sur laquelle le professeur Mathieu a centré son intervention. Il me semble pour ma part que le syndicalisme d'un côté et l'obligation d'impartialité de l'autre ont des périmètres qui ne doivent pas être confondus. Le postulat de ceux qui estiment qu'un magistrat ne devrait pas pouvoir se syndiquer est que le syndicalisme serait incompatible avec l'impartialité, qui est une exigence première du métier de juge. concernant les procureurs qui sont partis au procès, la question est plus complexe. S'agissant des juges, nous sommes d'accord, l'exigence d'impartialité déjà contenue dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est fondamentale. Le justiciable a droit à un tribunal indépendant et impartial. C'est pourquoi la liberté de parole du magistrat est limitée par la nécessité de préserver son impartialité objective dans le cadre des affaires qui lui seront soumises. Mais l'impartialité n'a de sens que par rapport à une procédure dans laquelle le magistrat intervient ou est susceptible d'intervenir. Pour qu'il y ait obligation d'impartialité, il faut par définition qu'il y ait des parties à égale distance desquelles le juge doit se tenir. Ce n'est pas une obligation de réserve générale inhérente au métier de magistrat qui lui interdirait de s'exprimer sur quelque sujet que ce soit. Et même l'obligation de réserve ne saurait servir à réduire un magistrat au silence ou au conformisme, ainsi que l'a rappelé le CSM en matière disciplinaire dans une décision du 15 septembre 2022, reprenant ainsi mot pour mot les termes de la décision de la commission de discipline du parquet dans l'affaire APAP en 1987. La liberté syndicale des magistrats et leur liberté d'expression à titre syndical ne peuvent donc pas être encadrées dans les limites d'un principe d'impartialité qui ne concerne que l'activité juridictionnelle. Lorsqu'un permanent syndical, déchargé temporairement de ses attributions au sein d'un tribunal, prend position sur une réforme en cours, un problème de société, voire une affaire médiatisée dont, par définition, il n'aura pas à connaître professionnellement, la question de son impartialité n'a pas de sens. S'il a la maladresse d'exprimer un préjugé, cela pourra lui être reproché lorsqu'il reprendra ses fonctions et il s'exposera au risque de récusation à la demande d'une des parties. Quant à considérer que les prises de position d'un syndicat engagent personnellement tous ses adhérents, auxquels on pourra reprocher individuellement, pour les récuser, les propos tenus par une autre personne physique ou morale que le juge lui-même, c'est un raisonnement qui n'est pas sans rappeler la fable de La Fontaine. Si ce n'est toi, c'est donc quelqu'un des tiens. À mon sens, et je me sépare ici du professeur Mathieu, l'adhésion à un syndicat n'est pas la manifestation d'un préjugé ou l'expression d'une opinion, mais simplement l'exercice d'une liberté fondamentale qui relève de la vie privée du magistrat et qui n'a pas à être exposée sur la place publique. Le CSM, où les magistrats sont minoritaires, l'a exprimé dans un communiqué, le professeur Mathieu l'a cité, en mai 2023, concernant la mise en cause d'une magistrate de Mayotte en raison de son appartenance syndicale réel ou supposé. Il réaffirme que la liberté syndicale est reconnue aux magistrats et rappelle que les prises de position d'une organisation syndicale ne sauraient servir de fondement à la mise en cause de l'impartialité d'un magistrat au seul motif qu'il serait membre de cette organisation. On ne saurait mieux dire. En conclusion, le syndicalisme judiciaire, depuis ses débuts, est apparu comme un contre-pouvoir à l'influence traditionnelle et envahissante de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice. Si l'on croit à la séparation des pouvoirs et à la nécessité du pluralisme dans une société démocratique, il n'y a pas là matière à scandale. Pour tenter de répondre à la question qui constitue le titre de ce débat, je dirais qu'il n'est pas une aberration définie comme le fait de s'écarter de ce qui est considéré comme normal. Il est conforme à nos normes juridiques nationales et européennes et permet aux magistrats qui le souhaitent de participer à une réflexion collective sur leurs conditions de travail et le sens de leur mission. Comme l'a parfaitement exprimé Jean-Paul Jean dans une étude sur l'évolution du statut du magistrat entre 1918 et 1958, je cite, « Les termes du débat sur la place du juge dans l'état de droit ont profondément changé depuis les années 80 avec deux dominantes. D'une part, le juge français, désormais juge européen international, occupe institutionnellement un rôle normatif et créateur de droit. D'autre part, les magistrats ont engagé un mouvement d'émancipation vis-à-vis du politique, avec une forte demande d'autorégulation et d'autonomie du corps. » Les conseils supérieurs de justice, dans de nombreux pays européens, sont amenés à jouer un rôle déterminant dans ces évolutions et ces nouveaux rapports que le judiciaire doit trouver avec les pouvoirs exécutifs et législatifs en tant que tiers pouvoir. Le syndicalisme judiciaire est-il pour autant nécessaire ? On peut penser qu'il l'était lors de sa création, pour sortir le juge de la solitude de sa tour d'ivoire, et qu'il est aujourd'hui la conséquence naturelle du sort que la France réserve à ses magistrats. Je voudrais ici citer un extrait de la quatrième de couverture d'un ouvrage de l'avocat Daniel Soulez-Larivière, « Les juges dans la balance », qui a fait du bruit en son temps, 1987. Je cite « Près de 6000 personnes rendent la justice au nom du peuple français. Qui sont ces hommes et ces femmes ? Souvent repérés par des bavures et leurs tenues désuètes, les juges restent inconnus. Ce livre éclaire la face cachée de la magistrature, jadis triomphante, au sommet de l'État. Passerait-elle aujourd'hui, après 2 siècles d'avanie, pour un petit métier exercé par des petites gens ? Au moment où le rôle de l'État du droit et de l'autorité judiciaire est remis en question, Daniel Soulez-Larivière explore ce monde clos, hiérarchisé comme une armée et qui inquiète puissants et modestes citoyens. Un petit métier pour de petites gens. L'auteur a toujours soutenu que ces mots n'étaient pas de lui. Mais la formule est restée dans les mémoires. Elle n'est pas étrangère à mon engagement syndical passé. Quand la magistrature sera enfin considérée comme un grand métier, quand les magistrats de l'ordre judiciaire auront des rémunérations égales à celles de leurs collègues de l'ordre administratif, quand l'indépendance de l'institution judiciaire ne fera plus l'objet de remises en question de la part des autres pouvoirs de l'État, le syndicalisme judiciaire perdra sa raison d'être. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Vous avez été écoutés dans un silence religieux. Des points de vue parfois dissonants ont été exprimés.